Jean-Jacques Ayagon, en terrain particulièrement connu, ou celui où on vous connaît en tout cas ce soir, puisqu'on va parler d'art plastique. Alors, d'une part, quand même, en profiter pour parler aussi de votre actualité, si je puis dire, avec Promenade au pluriel des Anglais, puisque cette grande exposition estivale, mais l'été dure très longtemps à Nice, hein, jusqu'à 4 octobre en l'occurrence, avec une multitude d'expositions que vous avez coordonnées, imaginées, conçues. Programme très très riche.
Finalement, j'ai fédéré les initiatives de tous les musées municipaux de Nice et des musées nationaux ou des institutions nationales, puisque l'une de ces institutions n'est pas un musée, les institutions nationales étant le musée Chagall, le musée national du sport et la Villa Arson, donc une école qui a un centre d'exposition, un centre d'art extrêmement pertinent. Voilà, donc j'ai invité toutes ces institutions à programmer sur le même thème, hein, de façon à créer une sorte de festival dans la ville, sur le thème de Promenade des Anglais, parce que par ailleurs, à l'invitation du maire de Nice, je me suis attaché à promouvoir la candidature d'un classement sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, de la Promenade des Anglais. D'ailleurs, au-delà de la Promenade des Anglais, de tout ce que j'appelle la ville d'hiver, c'est-à-dire cette ville qui est née à Nice à partir du développement d'une activité de tourisme climatique, et cela dès la fin du XVIIIe siècle et surtout pendant le XIXe. Donc chaque institution a programmé selon son génie, selon sa vocation propre. Naturellement, au musée Matisse, il y a Matisse et le paysage niçois. Au musée des Beaux-Arts, il y a une exposition sur Dufy, et là aussi le même paysage niçois, et notamment la Promenade des Anglais. Au musée Chagall, Anne Dopfer, la directrice du musée, a programmé une exposition que je trouve remarquable, une petite exposition documentaire à partir de la commande faite en 1962 par le comité du tourisme de la ville de Nice à Chagall d'une affiche de promotion de la destination Nice. Au MAMAC, donc au musée d'art moderne et d'art contemporain, une exposition sur les innombrables performances d'artistes qui sont déroulées sur la Côte d'Azur. Yves Klein, Noël Dela et beaucoup d'autres. Ben, naturellement, artiste niçois par excellence. Bon, par ailleurs, il y a également des expositions qui renvoient à l'histoire. Au musée d'archéologie, une exposition sur la traversée est-ouest du territoire de Nice de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, de la voie romaine jusqu'à la ligne 2 du tramway. À la galerie des Ponchettes, une exposition du muséum d'histoire naturelle sur les galets de la plage de Nice. D'où viennent ces galets? À quelle montagne ont-ils été arrachés? Comment ont-ils été transportés de la montagne jusqu'à la mer? Comment le rivage s'est-il formé? Quels animaux ont occupé ce rivage? Quelles plantes l'ont colonisé? De quelle façon les hommes ont fait usage également de ces galets? Moi-même, j'ai fait comme commissaire une exposition au musée Masséna que j'ai intitulée « La promenade ou l'invention d'une ville ». Pour bien montrer qu'au-delà de la promenade des Anglais dans sa linéarité, dans son fond de mer, il y avait toute une ville qui s'était développée et qui était le résultat du tourisme d'hiver d'abord, auquel a succédé à partir du XXe siècle un tourisme d'été. Le premier tourisme à Nice était un tourisme estival, hivernal. Ouais. On allait à Nice l'hiver pour respirer le bonheur. C'était un tourisme climatique, on n'allait pas se baigner. C'est ensuite qu'est venu le goût de la baignade, le goût du soleil, le goût du dénudement. Et toutes ces différentes phases de l'histoire touristique de Nice se lisent dans la trame urbaine, dans le tissu urbain, dans l'architecture, avec souvent des architectures de très très grande qualité. Tout ceci faisant, j'estime que nous avons là un dossier qui pourrait tout à fait être présenté d'abord au ministère de la Culture pour une inscription sur ce que le ministère de la Culture appelle sa liste indicative du patrimoine mondial, et peut-être un jour être présenté à l'UNESCO pour une inscription sur la liste du même patrimoine mondial.
À suivre sur ce dossier-là, Jean-Jacques Ayagon. Et puis, j'imagine que quand même vous avez toujours un regard sur une maison que vous aimez beaucoup. Vous connaissez bien le Centre Georges Pompidou?
Bien sûr, j'ai un regard toujours très affectueux sur le Centre Pompidou. Je continue d'aimer les maisons dans lesquelles j'ai travaillé. Centre Pompidou, on va commencer sa saison avec des expositions formidables, et je recommanderais d'aller voir le nouvel accrochage des collections permanentes du Musée national d'art moderne, qui a été entrepris par le nouveau directeur du musée, par Bernard Blisten. Je dois dire qu'il nous propose un accrochage extrêmement fort, extrêmement intelligent, extrêmement pertinent, et qui surtout a la grande qualité de mettre en en valeur les formidables chefs-d'œuvre dont le Centre Pompidou a à la garde. Je crois d'ailleurs que dans quelques jours, très très bientôt, c'est l'autre étage du musée qui sera également réaccroché, donc il y aura également un nouvel accrochage de la collection contemporaine. Mmh. Il ne faut jamais oublier que dans les musées, il y a certes des expositions, mais il y a également des collections permanentes, et que c'est d'ailleurs dans la réalisation d'une collection permanente et dans sa présentation que s'exprime le mieux les missions de service public d'un grand musée national.
Et c'est vrai qu'au Centre Georges Pompidou, les collections sont absolument somptueuses et bénéficient effectivement, depuis longtemps déjà, mais d'accrochages renouvelés pour amener d'autres regards, d'autres façons de lire les œuvres. Ça permet aussi d'en échanger, si je puis dire, certaines retrouvent d'autres lieux, peuvent aussi se promener parfois dans les centres Pompidou un peu dans le monde entier maintenant.
Dont celui de Metz, auquel je suis très attaché
évidemment,
pour l'avoir créé.
Qui continue un parcours absolument remarquable et que, même s'il y a effectivement, il y a Dominique Gonzalez-Foster bientôt qui arrive au Centre Pompidou, ce qui n'est pas une masse à faire, mais que les collections permanentes, il faut pas les perdre de vue et le centre y est très sensible dans cette politique de réaccrochage régulier.
On met le doigt aussi là sur l'une des difficultés du centre, c'est que le centre finira par manquer de place pour présenter correctement sa collection. Et je crois que c'est un grand sujet sur lequel les pouvoirs publics devraient se pencher, auquel les pouvoirs publics devraient réfléchir. Je crois qu'en la matière, le ministère de la Culture a une vraie responsabilité à assumer parce qu'il en va de l'intérêt du public, de l'intérêt également de la réputation de notre pays, de son rayonnement, de l'intérêt du Centre Pompidou.